juin 68, oui, il en est question. Il va en être question à nouveau aujourd'hui. On est avec Daniel Ben Saïd à l'occasion de la publication de son bouquin « Une lente impatience ». Mais enfin, il ne voudrait pas trop qu'on en fasse une tartine de mai 68, le camarade Daniel Ben Saïd. Il dit « On a fait une montagne de ce qui fut un pli ». Dans un paysage d'une très grande platitude, sans doute, mais l'assaut du ciel, ce sera sans doute pour une autre fois. Et puis alors, jeune auditrice de 30 balais, mais alors quelle confusion entre les maoïstes et les trotskistes. Mais alors, ça c'est vraiment deux espèces qui n'ont rien à voir et qui montrent à quel point vous vous en foutez, ce qui est parfait. On va donc passer cette heure à nouveau avec Daniel Ben Saïd qui raconte sa vie, nos vies, la vie, et puis un long parcours dans l'histoire quand même.
Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe, que l'État représente une classe. La bourgeoisie cherche à préserver une partie des étudiants, futurs cadres de la société. Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue. Nous allons pratiquer une politique de démocratie directe.
Quand il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers, nous sommes du côté des manifestants et nous n'en sortons pas.
À propos de tous ces événements tragiques de la nuit dernière, Monsieur Christian Fouchet.
Naturellement, il y a les manifestations d'étudiants. C'est par là que cela a commencé. Mais il y a aussi deux autres catégories. La pègre, on sait très bien ce que c'est que la pègre, c'est-à-dire ce qui sort du fin fond des pavés de Paris quand il y a de mauvais coups à donner. À tout moment, ces coups peuvent être des coups meurtriers. Et puis il y a autre chose, il y a aussi, c'est la troisième catégorie, il y a les anarchistes. Les anarchistes, les hommes au drapeau noir, qui recouvrent toutes sortes de choses sur lesquelles je ne veux pas m'apesantir à cette heure-ci de la journée, mais je sais très bien ce que je veux dire.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Daniel Ben Saïd. Là-bas, si j'y suis, une lente impatience.
Flight number 2, arriving from New York.
Il est 15h, c'est l'heure de la débauche de l'équipe du matin. Les ouvriers s'apprêtent à quitter l'usine quand un groupe de gauchistes tente de pénétrer à l'intérieur de l'usine, distribuant des tracts pour protester contre le licenciement d'un travailleur algérien qui fait la grève de la faim. Ils sont armés de barres de fer et de matraques, alors commence une véritable bataille rangée. Les gardiens, inférieurs en nombre, ne peuvent contenir les assaillants, mais les ouvriers viennent au secours des gardiens. Il leur faut une heure pour repousser le groupe d'assaillants, avant de pouvoir relever les blessés. Du côté des gardiens, il y en a 8 de conduits à l'hôpital, et l'un des assaillants a été touché par une balle. Il devait décéder à son arrivée à l'hôpital.
Alors que s'est-il passé? Eh bien, Richard Vernel a demandé à un ouvrier, un témoin de l'incident. Écoutez.
Le gars venait d'être, arrangé, quoi.
Il y a eu un coup de feu de tiré.
Il y a eu un coup de feu, oui. Et
de
tiré à bout portant.
Par qui?
Certains l'ont reconnu. Des gars qui le reconnaissent. C'était un gars qui était peut-être pas gardien, mais enfin qui appartenait au service de surveillance ou d'inspection de la direction de l'usine. C'est-à-dire, il avait, paraît-il, au dire de certains, le connaissant, parce qu'il le voyait régulièrement tous les jours, paraît-il qu'il prenait son café régulièrement là, et qu'il avait... Il avait des rapports communs, il rentrait dans l'usine, il avait des rapports avec les gardiens, donc je connais pas la personne, mais je vous rapporte ce qu'on m'a dit. Et cette personne-là est connue, donc il n'y a pas de problème, on peut retrouver sa trace et son témoignage. Les gardiens se sont conduits peut-être très courageusement, en définitive, ils ont essuyé les coups des... Alors là, les gars étaient vraiment déchaînés. Hein. Là, je crois que rien ne les aurait arrêtés. Hein. D'ailleurs, les gardiens... Même les grands et courageux, hein. Les gars étaient déchaînés avec des barres de fer et tous sont livrés à café.
Mourir pour des idées. Mourir pour des idées. Pierre Auvernet, les années 70. Voilà des échos qu'on retrouve dans le livre, très très beau livre de Daniel Ben Saïd, Une lente impatience. Tu le sais bien, Loulou. Tu es bien trop jolie, tu aimes les bijoux, la grande vie t'appelle, Loulou, tu es trop belle, et moi j'en suis jaloux. Il parle de ça aussi dans son bouquin, c'est pas seulement un bouquin d'intellectuel, ni un bouquin d'un homme engagé, d'un militant, c'est aussi le récit d'une vie, d'émotions, de rigolades, d'impasse, de labyrinthe. Voilà ce dont est fait ce bouquin. Et avec l'idée que on n'est pas toujours à la hauteur de l'événement, qu'on n'est pas toujours sur la photo de l'histoire, que parfois l'histoire se trompe d'histoire, qu'on se trompe d'histoire dans l'histoire. Michel Foucault disait, il faut avoir la modestie de se dire que le moment où l'on vit n'est pas ce moment unique, fondamental ou irruptif de l'histoire, à partir de quoi tout s'achève et tout recommence. Il y a ceux qui tombent bien, il y a ceux qui tombent à côté. Nos vies sont ainsi, certains renoncent, se cachent, abandonnent, et puis d'autres comme Ben Saïd, Daniel Ben Saïd, 58 ans, conservent sa foi de moine soldat, comme on a pu le dire, anticapitaliste. 68, il va nous en parler, c'est pas l'essentiel pour lui de ce qu'il faudrait retenir dans un parcours. Il se voit pas non plus le porte-parole d'une génération aussi extraordinaire, mais dans son bouquin, c'est une accumulation de notes, de regards, de réflexions, et c'est aussi une lettre à ceux qui viennent. Et cette auditrice tout à l'heure s'était pas gourée en pensant que cette lettre-là lui est adressée, même si elle pourrait être signée par d'autres que le seul nom de Daniel Ben Saïd, à qui quand même l'histoire devra au moins une chose, c'est la fameuse phrase « L'histoire me mord la nuque ».
Un ami de jeunesse, le soir au bal en la faisant danser, disait tout bas ses mots pleins de tendresse, en la voyant rigolo au cœur léger.
Je le vois bien, tu es bien trop
jolie,
pour accepter
la vie
trop simple de
chez nous.
Tu aimes les
bijoux,
la grande vie,
la
et moi j'en suis jaloux. Et maintenant Loulou quitte son village.
Elle partit vers la grande ville, croyant là-bas comme un roman. Vivre sa vie douce et facile, et rencontrer quelques princes charmants.
Mais à quoi bon les bijoux, les toilettes, qu'il faut payer par un buzz émetteur. Et tristement, souvent les soirs de fête, un souvenir venait dire en son cœur.
Je le vois bien, tu es bien trop
jolie,
pour accepter
la vie
trop simple de
chez nous.
Tu aimes les
bijoux,
la grande vie. Et moi j'en suis jaloux.
À partir de quand tu prends ton orientation trotskiste?
Bon, trotskiste, oui, bon, il faut assumer l'épithète, mais il a jamais eu pour moi un sens identitaire ou pieux. C'est une manière de relever un défi, hein. Il y a un côté minorité opprimée ou persécutée, alors on va dire trotskiste. Si on voulait dater, je dis que 68... Alors, certains étaient trotskistes avant 68, c'est le cas de Krivine, c'est le cas de Weber, au sens où ils étaient dans une organisation. Bon, moi, c'était pas mon cas. J'en ressentais pas la nécessité. J'avais eu des frictions avec les autorités du parti en disant « Mais pourquoi on n'édite pas Trotsky, qu'on soit d'accord ou pas, comme Rosa Luxembourg, etc. » Disons que jusqu'à 68 inclus, La définition, c'était oui, c'était un tiers-mondisme marxiste symbolisé par la figure de Guevara. Et ça, c'était une des composantes...
Avec une bonne dose libertaire.
Avec une bonne dose libertaire, mais ça, c'était en gros une des composantes. Il y avait la majorité, sûrement, en tout cas, des initiateurs, quand on a été exclu du Parti communiste et qu'on a formé la jeunesse communiste révolutionnaire, bon, étaient liés, eux, à des organisations trotskistes. Il y avait par ailleurs les gens qui étaient rentrés en opposition pour mille raisons là-dedans. C'était mon cas et qui n'était pas spécialement... D'ailleurs, après 68, j'imaginais plus une cinquième internationale qui soit la synthèse des mouvements étudiants japonais, des Black Panthers aux États-Unis, enfin de tout ce qui... Là aussi, c'était nouvelle qui émergeait, plus que du choix d'un courant ou d'une famille politique particulière.
La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés
dans le système
que leur ont fait leurs pères et qui ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concessions. Ils ne veulent pas qu'on aménage les choses, qu'on leur donne satisfaction sur une petite revendication pour en fait les coincer et leur faire prendre la filière. Et leur faire être, comme je vous le disais, dans 30 ans, ce vieux bonhomme usé qui est leur père.
Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. Qui formera le gouvernement provisoire? S'il le faut, j'assumerai cette responsabilité.
Mitterrand, 28 mai 68.
Qui peuvent y prétendre au même titre? Je pense d'abord à M. Pierre Mendès-France. Et qui sera président de la République? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, je suis candidat.
T'as pas envie d'être catalogué comme 68ard?
Ben, je trouve que c'est tellement réducteur de s'enfermer, puis surtout...
Très honorable.
Quoi?
Ça finirait par être très honorable d'appartenir à cette génération, on a l'impression.
Non, mais ça, par ailleurs, je le renie pas, mais ce qui m'ennuie là-dedans, c'est ce que j'appelle la glue générationnelle. C'est-à-dire, les gens ont pris des trajectoires différentes, et finalement, plus ces trajectoires s'éloignent de ce qu'on espérait alors... Plus il y a une célébration de cette espèce d'acte de naissance commun de 68 qui devient un peu collant, quoi, qui crée des promiscuités pas forcément choisies. Bon, voilà. Et surtout, au fur et à mesure des célébrations du 10e anniversaire, du 20e, du 30e, bon, ce qui m'irrite aussi, c'est le fait que... D'abord, il y a un récit de 68 qui est ce que j'appelle une success story dans le bouquin notamment de Hamon et Rothman, qui est un petit peu c'est un peu richereux et célèbre. Bon, voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ce côté-là est un peu irritant. Et puis, de manière assez... Et
nous avons été formidables, hein, ça, ce livre-là.
Nous avons été formidables, bon, il ne faut pas exagérer non plus, mais moi je m'intéresse quand même, je ne veux pas jouer l'espèce de vœu de pauvreté idéologique. D'ailleurs, c'est sûrement un des intérêts que j'ai pour tes émissions, c'est les anonymes et les inconnus m'intéressent au moins autant. Et dans cette célébration médiatique de 68, disons que la commune étudiante de Nanterre qui existait, j'y étais, bon, tout ça a eu un rôle, je ne vais pas le minimiser, mais occupe une place disproportionnée par rapport... si c'était que ça, 68... On en parlerait comme on parle de la révolte des campus américains. Si ça a rayonné bien au-delà et encore sur le plan international, quand je vais au Brésil, etc., mai 68 est une date. Si c'est une date, c'est en grande partie à cause de la grève générale et de tout ce qui s'y est fait. C'est le film sur Wonder. C'est cette partie-là qu'aujourd'hui on tend... Sous prétexte que ça serait d'ailleurs un continent englouti, hein, Renaud Billancourt devient un musée, etc., qu'on tend un petit peu à relativiser, ou à dire c'était le côté lourdingue, prolétaire, PC, CGT, avec les côtés désagréables, j'en conviens. Hein. Quand on allait se casser le nez sous les murs de Citroën ou de Billancourt, bon, c'était pas toujours agréable. Mais enfin, c'est ce côté dernière grève peut-être du 19e, du 20e siècle, dernière flambée de type 1936, et aussi annonce, amorce, anticipation des mouvements sociaux qu'on voit aujourd'hui, où il y avait effectivement, quand les footballeurs se mettaient en autogestion, malheureusement aujourd'hui c'est pas tellement le cas, toutes les facettes de la société qui se reconnaissaient autour de cette colonne vertébrale ouvrière. Alors là, avec la mythologie, hein, quand un cheminot arrivé de la gare de Lyon en Sorbonne avec un béret dans sa poche, hein, je suis un ouvrier, bon, acclamation, standing ovation, etc. Il y a de la mythologie là-dedans. Les maoïstes, leur fameux slogan, les mains rugueuses des ouvriers reprendront, des mains fragiles des étudiants, le drapeau. Oui, oui, mais c'est une rhétorique qui a existé, bon.
Au mois de mai, par l'espoir, tout le monde se parlait.
En sécurité. De toute façon, nous sommes associés. On a un service d'ordre en bas. Et je vous assure que votre fils va bien. Hein. Mais quelle dernière nouvelle?
Dis-lui qu'il est indispensable, oui, ici.
Oui, écoutez, c'est vrai, il est allé, je vous avoue, il est allé manifester boulevard Saint-Michel. Mais oui, mais il reviendra ce soir, madame. Écoutez, madame.
Ah, très besoin, il est obligé de revenir.
Vous voulez que je vienne vous voir? Je voulais, je sais pas. Mais je vous assure qu'il est en vie. Depuis 2 jours, je suis ici. Il va très bien. Et de toute façon.
Aucun rapport.
Bon, écoutez, ça va très bien.
Voilà,
de toute façon, dès qu'il revient, je lui dis de vous appeler. Téléphoner à votre sœur. Je peux vous assurer que vraiment, il va bien. Hein. Pour la manifestation de ce soir, il y a un service d'ordre qui est organisé et qui est très très bien organisé et je pense pas qu'il y aura de violence.
Il n'y a pas de flic de toute façon.
De toute façon, il n'y a aucun flic dans le quartier latin. Mais...
Oui.
Pierre Manu siècle.
Mais justement, étant donné qu'il y a un service d'ordre, je pense que cela limitera les rapports avec les autres étudiants, comme vous dites.
Elle a peur.
Oui, c'est le boulevard Saint-Michel. Oui.
Hey, tu prends le
numéro. Écoutez, madame, on se bat pour exprimer nos pensées, même si elles sont pures ou pas. C'est pas la question.
David, mais, oui.
Mais justement, c'est pour ça qu'on se bat pour qu'il n'y ait pas un phénomène de récupération politique.
Il y a quelque chose à lui dire sur David.
Voilà. Donc c'est pas nous les petits qui trinquent et les grands qui profitent.
Il y a deux types qui restent là-bas à la permanence pour la nuit. Autrement, on vit de la Sorbonne.
Oui.
Autrement,
comment ça, on vit?
Bah oui, la Sorbonne complètement pour la manie.
Je dis à votre fils de téléphoner quand il sera rentré. Enfin,
il y a vachement de monde à Saint-Michel.
Il
y a vachement de monde à Saint-Michel.
C'est pas important, il a envie. Il y a un quart d'heure, il est dans son bureau. Oui, mais vous en faites pas à la TSF en plus.
Oui, tu penses.
Il veut qu'ils sont tous achetés là-bas.
À la TSF, on me dit de vous dire qu'ils sont tous des vendus.
Non, tous achetés.
Mais bientôt nous l'aurons la TSF.
Mais bientôt nous l'aurons.
Il y a juste RTL qui est pas mal.
Oh merde, on va faire radio sans télé.
Je vais te faire mettre ta clé.
Ça y est, Marc, c'est plus ça. Depuis une semaine, il sort avec nous, alors ça va.
Mais non. Elle
pleure.
Elle est vachement bien. Oui, allô?
C'est papa.
C'est grand-père, la grand-mère.
Mais non, on n'utilise pas un drapeau tricolore. On utilise un drapeau rouge.
Non, noir. Noir. Pas rouge.
Rouge.
Noir.
Mais on s'en rend bien compte, vous savez.
Dis-lui que tous nos parents ont tous appelé successivement.
Pardon ?
Dis-lui que tous nos parents ont appelé successivement.
Oui, on fera attention. Au revoir, madame. Bon courage.
Donc, il y avait bel et bien deux mondes. Il y avait bel et bien ce monde étudiant, issu plutôt, à ton exception et quelques exceptions, plutôt de la classe moyenne, des classes moyennes. Et par ailleurs... Il y a eu un autre mai 68 qui était celui de la classe ouvrière.
C'est le titre d'un bouquin de Segui qui a essayé d'opposer les deux. Mais bien sûr, il y avait ces deux impulsions, disons, socialement assez différentes. Encore que justement, la misère en milieu étudiant, le milieu étudiant était en train de changer. C'est aussi ça, la sociologie. Et ça se vérifiait, pas seulement en France, mais dans les pays environnants, en Italie, aux États-Unis, le phénomène des campus, etc. La singularité française là-dedans, c'est la manière dont le Parti communiste et la CGT, qui avaient à l'époque une hégémonie incontestable sur notamment le mouvement ouvrier industriel, sur les grandes usines de l'automobile, de la sidérurgie, de la construction navale, comment là ils ont délibérément érigé une barrière ou une frontière, y compris d'ailleurs en cultivant une méfiance envers ces étudiants qui sont des petits bourgeois, qui finiront...
La fameuse chanson de ce pauvre Ferrat, pauvre petit con.
Pauvre petit con que j'ai... Bon, amnistie pour Ferrat, mais à l'époque c'était difficile à digérer. Donc il y a eu cette espèce de barrière de méfiance. Il y a un film là-dessus formidable, de Sous les murs de Citroën, où on voit ces malheureux étudiants dont nous sommes, pour s'adresser aux ouvriers juchés sur le mur, non mais la grève générale, on peut chasser De Gaulle, etc. Et des visages absolument fermés au-dessus, non mais c'est deux mondes qui ont pas pu communiquer. Je dis c'est une particularité française parce que en Italie, ça a été très différent. C'est-à-dire que aussi bien pour le type de parti communiste, mais il y a eu une sorte de porosité, d'échange assez spontané. Bon, là, on a eu une espèce de mur.
Alors, celui qui a essayé aussi, c'était Sartre sur son bidon à Billancourt. Là, l'image est restée.
Alors ça, c'était Sartre à l'époque, était plutôt de sensibilité ou flirté avec les Mao et avec... et notamment, d'ailleurs, avec son... ce qui n'est pas son directeur de conscience, Benny Lévy à l'époque, dit Victor. Oui, mais alors ça, c'est une figure récurrente, finalement, de l'intellectuel en France, qui ne me paraît pas dérisoire, par ailleurs, au contraire, mais oui, c'était le philosophe perché sur son tonneau, parler sous les murs de Billancourt, et puis bien des années plus tard, en 95, Bourdieu, à la gare de Lyon, etc. Alors, ça marque à la fois un mouvement de grandes figures intellectuelles vers le mouvement ouvrier, et en même temps le fait que l'accueil qui leur était réservé, pas pour Bourdieu, parce qu'on est déjà sorti de cette période-là, était les intellectuels, oui, mais en gros, d'abord, toujours suspect d'une possible trahison sociale, la grande figure qui exprime cette hantise...
Suspicion fondée.
Malheureusement, certains l'ont confirmé, mais la grande figure littéraire qui vit dans la hantise de la trahison, c'est Nizan. C'est les romans de Nizan, La Conspiration, Antoine Bloyer. Il est complètement hanté par cette menace de trahison de classe, à l'époque, on aurait dit. Bon, et évidemment, là je le prends y compris comme cas personnel, j'ai quitté sans regret le Parti communiste, où j'en ai été exclu sans regret. Mais ce qui me peinait, c'était aux yeux de ces ouvriers du comptoir, le fait de passer pour, ça y est, le fils machin fait des études, il passe de l'autre côté.
Il est fier.
Oui, il devient fier. Bon, ça c'était quelque chose de douloureux. Mais l'accueil fait aux intellectuels était toujours un accueil en suspicion et les mettant en situation de devoir... faire en permanence leur preuve de fidélité. D'où cette position assez ambiguë des intellectuels communistes dont le prototype est Aragon, dont un auteur qui m'est cher, Dionis Mascolo, disait que finalement il était resté un sympathisant de l'intérieur, mais sans cesse tenu de prouver, c'est un texte ça peu connu, mais cette brochure impitoyable sur Aragon de Jean Malaquais qui est Aragon ou l'intelligence servile, mais c'est vrai qu'il a servi bien des causes, les meilleures et les pires.
Mais bon. C'est un mot qui revient souvent sous ta plume, ça, quand on lit tes papiers, intelligence servile, ça c'est une hantise que tu as.
Ah oui, bah, quelle que soit d'ailleurs la servilité, mais qu'on mette ses idées à la disposition d'une autorité ou d'une maîtrise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit aujourd'hui dans le cas de l'ancien disciple de Foucault qui est devenu l'idéologue organique du MEDEF, ou que ce soit d'ailleurs une soumission à l'orthodoxie du parti. Je crois que... Alors, si on a réussi, si on a réussi quelque chose, c'est pas du tout d'avoir créé un grand parti. On a essayé de faire de notre mieux, mais... Je crois que ça, c'est quelque chose d'important, pas de visible, d'avoir réussi à créer un mouvement, une organisation politique dans lequel il y a bien des affinités, mais il n'y a pas une orthodoxie de pensée. On n'a jamais d'ailleurs été sartrien contre Althusser, althussérien contre Lefebvre, etc. Peut-être éclectique, mais tout ça faisait partie d'un patrimoine... d'un paysage, finalement, c'est le terme que j'emploie dans l'introduction du bouquin, mais c'est un paysage de pensée qui reste assez divers, et je crois qu'il n'est pas quelque chose de personnel. Une culture d'un certain pluralisme qui, en même temps, n'est pas incompatible avec un engagement énergique. Hein. Ça, c'est un peu mon défi. Est-ce qu'une politique profane ou laïque est possible ? Ça se traduit par est-ce qu'il est possible de s'engager à fond, de mettre une énergie absolue à partir de convictions ou de certitudes relatives. C'est-à-dire on n'est pas sûr d'avoir raison, mais pourtant, bon, la politique est un combat, il faut y aller, quoi.
Alain Krivine a confirmé aux journalistes qu'il se présentait, à moins que les partis révolutionnaires n'arrivent à se mettre d'accord sur un candidat commun. Pour sa part, Alain Krivine verrait très bien comme candidat Charles Piaget, le représentant CFDT de l'IP, qui a été à la pointe de l'actualité durant tout le conflit à Besançon. Alain Krivine au micro de Suzanne Gauthier.
La raison, je crois, en est fort simple, c'est que si effectivement aujourd'hui des millions de travailleurs vont voter pour l'union de la gauche, avec l'espoir de renverser l'UDR, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs. Par contre, qui sont extrêmement méfiants, surtout après l'expérience chilienne, extrêmement méfiants vis-à-vis du caractère réformiste et légaliste du programme commun et de l'union de la gauche, qui veulent affirmer cette méfiance dès le premier tour, même si au second tour ils apporteront leur suffrage à François Mitterrand. Par conséquent, nous pensons qu'il est extrêmement important que cette force de défiance vis-à-vis de l'union de la gauche ait aujourd'hui à pouvoir se regrouper derrière le nom de Charles Piaget de façon à montrer à François Mitterrand que tout ne sera pas permis et que notamment il y a aujourd'hui en France une force extrêmement importante qui sera prête, même en cas de victoire de l'union de la gauche, à ne pas tolérer le pouvoir de la bourgeoisie qui restera en place. C'est ça que nous voulons développer pendant la campagne présidentielle. C'est ça que Charles Piaget pourra développer avec beaucoup plus de force que nous s'il est le candidat unique des révolutionnaires. Si par malheur ceci n'est pas possible, malgré la mobilisation de masse qui va s'opérer derrière son nom cette semaine, alors nous serons amenés à garder notre candidature.
Alors, parlons de cette époque d'après 68. Parce qu'à travers tout ton bouquin, il y a une chose qui te hante, c'est-à-dire pourvu que je n'écrase pas les générations qui viennent. Hein. Surtout ne pas désespérer ceux qui arrivent. Il y a cette hantise quand même, cette courtoisie au moins.
Non, je pense que le terme de courtoisie, dans ce cas-là, c'est une courtoisie réfléchie et politique. Je trouve que, je dis pas que c'est la bonne réponse, mais il y a une énigme en France, c'est la difficulté, alors qu'il y a eu des luttes sociales très importantes en 95, en 2003, comparé aux pays voisins, à l'Italie avec les grands mouvements autonomes, en Catalogne ou en Espagne avec le mouvement anti-guerre, en Angleterre. En France, il y a une difficulté particulière, semble-t-il, d'émergence d'une génération politique. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se mouillent, etc. Mais c'est pas massif. Et je me demande si l'omniprésence de cette génération 68arde qui occupe aussi bien les postes de l'appareil d'État que les directions des partis, etc., a pas finalement un effet d'intimidation et d'inhibition. C'est pour ça que je dis, la candidature de Besancenot, pour la Ligue, hein, pour nous, c'est aussi une manière de dire, il y a autre chose, nous, on n'est pas assez vieux pour dire on passe le témoin et on se retire, mais Bon, il faut que cette génération qui entre en action dans un univers, parce que c'était ça un peu le défi de mon bouquin, de savoir si des jeunes pouvaient le lire, y trouver un intérêt sans qu'on passe pour des vrais cinglés ou des loufoques. Parce que, pour reprendre ce symbole génération Besancenot, son horizon de pensée et de formation, c'est l'insurrection zapatiste, c'est le mouvement altermondialiste, etc. Mais alors, nous, on avait le sentiment d'être nés avec la révolution d'octobre, par procuration. On était encore dans cette séquence-là.
Il y avait la guerre d'Espagne, il y avait... et puis la résistance, c'était
des repères. Enfin, ce que disent les historiens appellent d'ailleurs le court XXe siècle, je crois que la Première Guerre mondiale, la Révolution russe et ce qui s'en est suivi, dont la guerre d'Espagne, il y a un univers politique et de pensée qui était miné et rongé de l'intérieur depuis longtemps, mais qui s'est carrément délabré ou décomposé à la fin des années 80. C'est pas uniquement un problème d'âge, c'est qu'il y a une sorte de fracture culturelle de vision du monde. Or, en même temps, et sans se faire mousser, on a sûrement fait plein de bêtises, mais il y a aussi une expérience. J'insiste beaucoup, je crois que je la reprends trois fois, la formule de Deleuze, on recommence toujours par le milieu, ce qui est le contraire de la table rase. On recommence par le milieu. Donc, que la page se tourne, c'est très bien, à condition de ne pas effacer les pages précédentes.
Du grain à moudre, voilà ce qu'on peut, pour résumer le livre de Daniel Ben Saïd, Une lente impatience, du grain à moudre avec cette foi qu'il emprunte à une définition de Max Weber, qui disait que la politique, comme la vocation de celui qui, lorsque le monde lui semble trop stupide ou trop mesquin, pourrait se réduire à dire quand même et malgré tout. Alors, l'histoire nous mord la nuque. On a tous répété cette phrase-là, et j'ai trouvé l'auteur, c'est toi, tu as inventé cette formule. L'histoire nous mord la nuque.
Je savais pas qu'elle était parvenue jusqu'à toi. Ça a résumé et symbolisé... parfois d'ailleurs avec engouement, c'était presque devenu une maxime qui résumait notre impatience de 68 et de l'immédiat après 68, et on croyait de bonne foi, dur comme fer, qu'on allait connaître la révolution en Europe dans 5 ans, dans 7 ans, 8 ans ou plus tard, encore ça nous paraissait lointain. Donc l'idée d'être pressé, d'avoir le souffle...
En 68, t'as 22 ans.
J'ai 22 ans, oui. D'avoir le souffle de l'histoire sur la nuque, c'était le sentiment, et c'est une formule, évidemment, qui a servi aussi de maxime à ce qu'il faut bien appeler, après coup, notre gauchisme pressé, ce qui est plus qu'une impatience, une fébrilité, qui a usé d'ailleurs beaucoup d'énergie, parce qu'on était 24 heures sur 24 sur le pont, à multiplier les initiatives. Bon, il a fallu du temps pour prendre la mesure des rythmes plus contrastés de l'histoire, etc.
Alors, dans les années d'après 68, vous créez la LCR?
Oui, on a été interdit donc en 68, dissous par décret du ministère de l'Intérieur. Bon, évidemment, le climat n'était pas celui d'une dictature franquiste et autres, donc les interdictions pouvaient gêner, elles n'empêchaient pas de se reconstituer, ça correspondait pas au rapport de force à l'époque, etc. Donc on a créé la Ligue communiste en 69, dans un congrès clandestin quand même à Mannheim, en Allemagne, et... la Ligue communiste, là, on peut dire, est devenue une organisation, au moins dans sa majorité. Évidemment, il n'y a jamais unanimité là-dessus. Mais une des grandes questions de ce congrès de fondation, c'était notre affiliation à la 4e internationale, dont on ne connaissait pas très bien, par ailleurs, enfin, en tout cas, pour ce qui était déjà, oui, la réalité, mais par une démarche logique. C'était le capitalisme est une réalité internationale, et pas seulement dans la phase contemporaine de mondialisation. La solidarité est pas seulement une solidarité charitable avec le Vietnam. Si le capital est international, il faut une internationale. Il y en a une, elle n'est pas extraordinaire, Elle est toute petite et toute modeste, mais justement, là aussi, on avait le culot d'une génération pour qui l'histoire va vite. On se fait expulser du Parti communiste en 66, en 68, grève générale. Et après la grève générale, on va continuer. Donc, le raisonnement était, bon, il y a une internationale petite, mais honorable, elle n'a pas trahi, elle s'est opposée au stalinisme, etc. Donc, on y va, et puis c'est à nous d'en faire ce dont on a besoin, voilà. Allez.
Les LIP qui continuent leur action veulent toujours que le maximum de personnes soient reprises dans la future société. 160 licenciements, c'est trop, estiment-ils. Et comme pour mieux faire entendre leur point de vue, les LIP ont pris le chemin de la mairie. À la porte du conseil municipal, ils ont attendu Henri Giraud, toujours en discussion avec quelques délégués. Alors l'un des ouvriers a voulu faire un cadeau au médiateur.
Monsieur Giraud, ce sont des œillères. Veuillez les accepter, c'est symbolique de la part des travailleurs de l'IP. Les œillères, monsieur Giraud, les œillères de mulet. J'anime ma première. Les œillères de mulet pour monsieur Giraud.
Est-ce que vous avez une réponse à leur formulaire?
Ça leur fait tellement plaisir.
Comme ça, que je parte tout de suite, sera encore beaucoup mieux. Si ça continue comme ça, je vais partir encore beaucoup plus vite.
Henri Giraud est donc reparti au volant de sa voiture en tentant de se frayer un passage au milieu de dizaines de LIP, criant et tapant dans les mains. Le médiateur doit retrouver les syndicats à 14h. C'est du moins ce qui était prévu avant ce matin.
Alors, les années 80, pour toi, sont les années les plus sombres, les plus vides.
Un sinistre. Sinistre. Bon, c'est sinistre à grande échelle. Hein. C'est les années de la grande contre-réforme Reagan-Thatcher. Mais sous une autre forme, je crois que les années Mitterrand ont aussi été terribles pour désorienter, casser les solidarités, casser les résistances, désarmer la vigilance. Pour ne prendre qu'un exemple, à l'époque, il était encore temps, pour s'opposer au phénomène type Front National, de construire une solidarité sans faille entre Français, étrangers, immigrés, etc. Or, quand Mauroy, qui n'est pas le pire de la nébuleuse social-démocrate, commence à parler de la grève de Citroën comme une grève islamique, en 82-89, alors que jusque-là, on parlait des immigrés comme travailleurs, pas en fonction de leur religion ou de leur culture. C'est moins spectaculaire que les bulldozers du PC à Ivry, mais c'est une brèche. C'est une brèche. Sur cette question de la xénophobie ou du racisme, chaque pouce de terrain perdu, après, est très dur à reconquérir. La façon dont Mitterrand, Max Gallo, qui était porte-parole de l'Élysée à l'époque, en témoigne, a délibérément instrumentalisé le Front National par calcul électoral, hein, il n'y a pas de lien organique, pour mettre la droite en impossibilité de retour électoral. Bon, c'est la façon dont s'est mis en place tout le vocabulaire moderniste, de la flexibilité. Encore une fois, vu les rapports de force en France, les réformes ou les contre-réformes n'ont pas été équivalentes à ce qui s'est passé en Angleterre ou aux États-Unis. Mais, oui, c'est ça. On a désarmé un mouvement ouvrier qui pouvait être sur ses gardes et résister beaucoup plus.
La chute du mur, comment tu prends ça?
Champagne et Alka-Seltzer.
Champagne et Alka-Seltzer.
Oui. Champagne parce que il était souhaitable que ce mur en tant que symbole et ce mur physique tombe. Pour quelqu'un qui combattait le stalinisme depuis mon âge conscient ou presque, c'était évidemment... Enfin, une victoire. J'hésite à employer le mot. Champagne, oui, parce que c'est la deuxième mort d'un cadavre, je dirais. Hein. Le système était pourri. RDA, comme le système soviétique avant. Pour moi, la contre-révolution en Union soviétique, elle a eu lieu dès la fin des années 30, etc. Mais ce cadavre qui n'en finit pas de mourir... continuer finalement à décomposer l'atmosphère. Donc ça, Champagne. Et Alka-Seltzer, parce que finalement, le mur est tombé justement après la grande poussée de contre-réforme libérale, à une époque où ce qui pouvait y avoir de positif dans la tradition révolutionnaire, pas seulement d'ailleurs en Russie, mais même en Allemagne de l'Est, on ne peut pas oublier qu'une partie de ces gens-là ont été des combattants héroïques de l'antifascisme, etc., ou un personnage ambigu comme Marcus Wolf, qui fascine le carré. Mais ce qui pouvait y avoir de part positive ou dynamique était épuisé, de sorte que même si on n'était pas responsable, nous, pour s'y être opposés, de la politique du stalinisme, les gravats du mur nous sont aussi tombés sur la gueule. Et moi, je le percevais particulièrement sur les résultats très contradictoires en Amérique latine. En Amérique latine, on sentait aussitôt que la disparition de l'URSS était un soulagement et enlever une hypothèque, d'un côté, mais qu'en même temps, le fait que les pétroliers soviétiques n'arrivaient plus à Cuba, le rapport de force internationale avec la... On n'était pas encore à la croisade de George Bush, mais on sentait bien que les rapports de force... S'il était tombé le mur au profit de mouvements sociaux à l'offensive, comme dans les années 70, il y aurait eu que du champagne. Mais là, les effets étaient, dès la chute du mur, prévisiblement contradictoires.
Une chose qu'on a mis de côté, finalement, c'est l'essentiel dans ton... Peut-être pas dans ton livre, mais en tous les cas dans ta vie, c'est le vélo, parce que, avant tout, tu es un cycliste.
Je suis un cycliste d'abord parce que je suis fâché avec la mécanique, que j'aime pas les voitures, etc., ni les moteurs, même.
Tu décris des itinéraires bien précis, une vraie petite carte Michelin avec les côtes, les descentes, les endroits, des itinéraires bien précis.
C'est un plaisir que j'aimerais faire partager d'abord. Et puis, le vélo, mais ça vaudrait aussi pour la marche, j'imagine, ou pour la course à pied, c'est aussi un moment propice à penser. Il y a une sorte de liberté sur un vélo où d'un côté on a le paysage, on a la tête qui travaille et les idées viennent en pédalant et en marchant. Là aussi, elles ne tombent pas du ciel. Donc, pédalons, hein, et... Je crois que ça produit effectivement pas mal.
Oui, il y a une métaphore, hein, c'est que si on pédale pas, on tombe du vélo.
Si on pédale pas, on tombe. Donc il faut pas arrêter de pédaler.
C'est ton message finalement. Ces 500 pages, ça aboutit à ça.
C'est ça. Oui, pédalons encore.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, y avait Fernand, y avait Firmin, y avait Francis et Benjamin. Et puis Paulette.
Ça, c'est la version de Pierre Barraud. Hein. Merci à tous, merci à Daniel Ben Saïd. Donc, je rappelle encore une fois le titre de son bouquin qui vient de sortir aux éditions Stock, Une lente impatience. Merci à nos camarades de l'INA, Hervé Evano et Catherine Louis. Pour plus d'informations sur tout ça, le site là-bas, si j'y suis, vous le trouverez en allant sur franceinter.com. Coyen Nguyen, Yann Chouquet, Pascal E, Pascariello, c'est l'équipe de là-bas, si j'y suis. La technique aujourd'hui, c'était Mathias Alléon et Henri Bérec, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.